Salut, salut, vous êtes bien sur Radio Canu pour... Mais comment faut-il que je vous le dise ?
Comment faut-il que je vous le dise ?
Mais comment faut-il que je vous le dise ? Et c'est la deuxième saison qui commence tout de même.
Oh yeah !
Bienvenue dans notre émission anti-hebdomadaire de libre expression poétique à base de pop-pop-pop qui aime la purée mousseline réconfortante, le rap conscient, les artistes prisonniers de leur désespoir et la java bleue. Ici présent et présente dans le studio, Julie.
Salut, salut.
Greg.
Ouais, ouais.
Alice, notre invitée.
Bonjour.
Cathy et Sam. Voilà, voilà. Donc, on va commencer bientôt.
Et
parce
aussi
que...
un petit coucou à Anita qui n'est pas parmi nous là, mais qui reviendra évidemment
dès la prochaine session.
Oui. Anita en vadrouille. L'aperçu étant indisponible, c'est parti.
J'ai écrit ce livre avec beaucoup de sacrifices, étendu sur un lit, sans pouvoir me lever ni pouvoir m'asseoir. Mais en voyant la nécessité qu'il y a de prévenir l'humanité du cataclysme qui s'en vient, j'ai fait un grand effort. Je dédie ce message à l'humanité comme dernier recours, car il n'y a rien d'autre à faire. Hercolubus ou Planète Rouge. L'humanité est fascinée par des pronostics de ceux qu'on appelle faussement scientifiques, qui ne font que la gaver de mensonges, défigurant la vérité. Nous allons parler d'Hercolubus ou Planète Rouge qui s'en vient vers la Terre. Les scientifiques, selon leur dire, l'ont déjà même pesée, qu'elle a tant de tonnes et tel diamètre, comme s'il s'agissait d'un jouet pour enfants. Mais ce n'est pas comme ça. Hercolubus ou Planète Rouge est 5 ou 6 fois plus grande que Jupiter. C'est un géant énorme que rien ne peut arrêter ou dévier. Les terriens croient que c'est un jouet, mais en réalité, c'est le début de la fin de la planète Terre. Ce moment est arrivé. Les autres mondes de notre système solaire savent cela, et il y a chez eux le véhément désir de nous apporter leur aide afin d'éviter le cataclysme. Mais personne ne pourra l'arrêter, car c'est le châtiment que nous méritons, pour en finir avec autant de méchanceté. Je fais savoir qu'Hercolubus est une création comme notre monde. Elle a son humanité qui y habite, aussi perverse que celle d'ici. Chaque planète, chaque monde a son humanité. Que ces messieurs, les scientifiques, n'aillent pas croire qu'ils vont pouvoir attaquer cette planète et la désintégrer. Car là-bas aussi, ils ont leurs armes. Et ils peuvent répondre et nous faire disparaître d'un moment à l'autre. Si jamais ils les attaquent, ils vont se défendre. Et la fin sera beaucoup plus rapide. Il se trouve que dans le va et vient de la vie, tout retourne à son début ou à sa fin. Dans le continent Atlante, la même chose s'est produite, mais avec moins d'intensité. Cependant, dans ce retour des événements, notre planète ne supportera même pas qu'Hercolubus passe très près de nous, s'envoler en éclats. Ceci, messieurs les scientifiques l'ignorent, car ils se croient très puissants avec leurs armes, capables de détruire un géant semblable, mais ils se trompent lourdement. Ce qui va se passer dans peu de temps, c'est la désintégration de la fameuse tour de Babel qu'ils ont construite. Ils l'ont déjà terminée, et maintenant les conséquences négatives arrivent pour toute l'humanité. Ces fausses puissances, comme on les appelle maintenant, seront en ruine, aussi bien économiquement que moralement. Car l'argent disparaîtra d'ici très peu de temps, et la faim et la misère en finiront avec elles. Elles ne supporteront pas d'être secouées et seront pétrifiées de peur et de terreur. Là, elles vont se rendre compte véritablement qu'il existe la justice divine pour châtier la perversité. Ce qui se passe actuellement, que tout le monde est occupé à chercher de l'argent à tout prix, c'est exactement ce qui s'est passé dans l'Atlantide. Le dieu de cette époque était l'argent. que les religions illustrent comme un veau d'or. De la même manière, à cette époque-ci, l'argent est le dieu et les gens se trompent totalement. Les riches qui maintiennent hurlent tellement de pouvoir seront les plus malheureux car ils ne pourront rien faire avec leur grande quantité d'argent. S'il n'y a personne pour leur vendre ni leur acheter quoi que ce soit, ils se mettront à genoux et pleureront en mendiant un plat de nourriture et ils hurleront comme des chiens. Lorsqu'Hercolubus se rapprochera davantage de la terre, au point de former une paire avec le soleil, des épidémies mortelles commenceront à se répandre sur toute la planète. Les médecins ou la science officielle ne sauront pas de quel type de maladie il s'agit, ni comment elle se soigne. Ils seront désarmés face aux épidémies. La vie sur notre planète commencera à disparaître. Et c'est alors que l'humanité devra manger les cadavres de ses semblables, à cause de la faim accablante et de la chaleur insupportable. Arrivera le moment de la tragédie, de l'obscurité, secousses, tremblements de terre, raz de marée. Les êtres humains se déséquilibreront mentalement du fait de ne pouvoir ni manger ni dormir. Et en voyant le danger, ils se lanceront dans le précipice en masse complètement fous. Cette race va disparaître. Il ne restera pas de vie sur la planète et la Terre s'enfoncera dans l'océan, car l'humanité a atteint la perversité la plus grande et qu'elle veut maintenant faire passer le mal à d'autres planètes. Et ceci, on ne va pas le lui permettre. Of course we do and radiant smile. The moon, a web of silent waves. In the still garden where a child gathers the simple salad leaves. A moon dew stars the hanging air, and moonlight kisses a young brew. And gathering, she sings an air. Far are the waves, these fair are too. Be mine, I pray, a waxen ear, to chill me from a childish croon, and mine, a childed earth for her, who gathers simples of the moon. De raies légers, de rosée douce et fraîche, la lune tisse un voile de silence, dans le jardin tranquille où une enfant cueille les simples feuilles de salade. De sa rosée, la lune étoile ses cheveux, pendant et sa clarté baise le jeune front, et elle, tout à sa cueillette, chante. Blonde, tu es, comme blonde est la vague. De grâce, qu'on me donne une oreille de cire pour mettre un bouclier à son puéril fredon et un cœur cuirassé contre celle qui cueille ainsi les simples de la lune.
But I don't try to understand. But I don't want to understand.
Gold brown upon the stead it flew. The rock vine clusters lift and sway. Vast wings above the lambent waters brood of sullen day. A waste of waters ruthlessly sways and uplift its weedy mane, where brooding day stares down upon the sea in dull disdain. Uplift and sway, O golden vine, your clustered fruits to love's full flood, lambent and vast and ruthless as is seen in certitude.
D'or brun sur la marée repue, les grappes du varech se soulèvent, ballottent, au-dessus des eaux blêmes couvent de vastes ailes, celles d'un jour maussade. Une immensité d'eau, impitoyablement, ballotte sa crinière d'herbe, la soulève, là où le jour qui couve abaisse sur la mer un œil lourd de dédain. Soulève et ballotte, ô vigne dorée, les grappes de tes fruits pour la pleine marée de l'amour, blême et vaste, et impitoyable autant que ton incertitude.
Mais je ne veux pas tout comprendre, mais je ne peux pas tout comprendre.
Gaunt in gloom, the pale stares their torches, unshrouded wave. Ghost fires from heaven's far verges faint illume, arches answering arches, knights in sin dark nave. Seraphim, the lost host awaken to survive still, in moonless gloom each lips is muted dim. Raised when she hath and shaken, a terrible, and long and loud, two knights nave up the ring, a stark nail tolls, as the bleak incense surges, cloud and cloud, voidward from the adoring wastes of salt.
Funèbre dans l'obscurité, les étoiles pâles brandissent leurs torches voilées d'un suaire. Des confins du ciel faiblement, des feux fantômes éclairent, les sorts des arches une à une. Nef de nuit d'un noir de péché, les séraphins, légions perdues s'éveillent et vont servir jusqu'à ce que, dans la nuit sans lune, chacun s'efface, obscur, muet. Une fois qu'elle aura levé et balancé son encensoir, et alors, long et fort, pour la nef de nuit qui s'élance, un glas stellaire sonne, et l'encens blême, nuage après nuage, s'élève. De l'adorant des airs des âmes en direction du vide.
Hey, mais comment faut-il que je te le dise?
Ben, Radio Canu, 102.2, la plus au sud des radios.
Tu sais pourquoi t'es là, toi? Tu sais pourquoi le ciel est noir la nuit? Tu sais pourquoi 2 et 2 font toujours 4, même chez les cons? Tu te souviens de ce que tu m'as dit hier? Et de ce que tu m'as fait après? Quelle est la capitale de la Mongolie extérieure? Ai-je raison ou ai-je tort? Comment tu t'appelles en fait? Désolée, j'ai un trou noir là. Quelle était la skieuse française qui a remporté la médaille de bronze lors du Super G des Jeux Olympiques d'Albertville? T'as pas l'heure? Tu sais où j'ai mis les clés de la voiture? Sais-tu nommer tous les présidents de la Troisième République? Ou au moins un d'entre eux? Est-ce que je peux préparer mon filet américain moi-même? Et pourquoi le monde, il est si injuste? Et si le bon Dieu était tout puissant, pourquoi il a fallu près de 40 milliards d'années de l'âge de l'univers avant qu'il existe quelqu'un qui croit en lui? C'est quoi la chose la plus extraordinaire que tu as vue de ta vie? T'as renouvelé notre abonnement à TéléZ? Et pourquoi ce choix de papier peint? L'amour est-il aussi aveugle qu'une chauve-souris selon toi? Et c'est combien de 100 dollars en euros? Et comment on dit « j'ai les Anglais qui débarquent » en anglais? Et c'est quoi la différence entre un nion et un cation? Et tu gagnes combien par mois? Et crois-tu en la réincarnation? Et combien tu me paries que je suis en train de me foutre de ta gueule? C'est combien de points quand tu joues le petit à la fin de la partie? On est quel jour aujourd'hui en fait? Tu sais qu'on cache les preuves que les extraterrestres nous rendent régulièrement visite? Tu crois en la réincarnation ou est-ce que j'ai déjà posé cette question? Zut. Tu vas voter pour qui lors des présidentielles? Est-ce que ton père a une belle situation? Et comprends-tu les règles du foot américain? Te souviens-tu de ton premier jour de l'école? Et qui a marché le plus de buts dans l'histoire du foot français professionnel? Et qu'est-ce que j'en sais, moi? Pourquoi t'as pas un compte sur Facebook, en fait? Quelle cuisson pour l'onglet? C'est quoi la preuve que 2 égale 1? Et quels sont les talents inutiles? Alors, faut-il sauver la Grèce? Sais-tu conjuguer le verbe « gésir » au passé simple? Bah pourquoi tu tousses? Et la vie n'a vraiment plus de secret pour toi? Pourquoi quelque chose plutôt que rien? Et qu'est-ce qu'il y a à la télé ce soir? Si ceci est la réponse, quelle était la question? Tu sais que comme tous les Capricornes, je ne crois pas en l'astrologie. Tu penses que tu pourrais m'aimer autant que je t'aime? Pourquoi je peux pas bouffer à tous les râteliers? D'ailleurs, c'est quoi un râtelier? Pourquoi tu fais la gueule encore? Et si on allait boire un coup? Pourquoi tu ne veux plus de moi? C'est à cause de ma bidoche? C'est où le bon service pour déclarer un décès? Pourquoi tu rigoles comme un crétin? C'était quoi ta question? Qui se souvient de la devise officielle du Québec? Et si on repartait de la case départ? Où trouver une bonne baguette de nos jours? Tu as sorti le chien ce matin? Est-ce que cette couleur suit là, ce que j'ai sur moi, ça me va bien? Bon, alors on se revoit quand?
Il semble que ce soit affreux d'être célibataire. Et vieillard, gardant à peine sa dignité, de demander accueil aux autres quand on veut passer une soirée en compagnie. D'être malade et du coin de son lit, de considérer la chambre vide pendant des semaines. De toujours prendre congé à la porte des maisons. De ne jamais grimper l'escalier à côté de sa femme. N'avoir jamais dans sa chambre que des portes de communication s'ouvrant sur les appartements des autres.
Tu crois vraiment que la vie n'a aucun sens divin?
De rentrer chez soi en portant son repas du soir à la main.
Tu m'écris alors?
D'être
au moins
obligé
tu
d'admirer
SMS,
les enfants des autres sans avoir le droit de répéter sans cesse, je n'en ai pas.
Et l'iPhone 4, ça vaut vraiment le coup?
De se composer une apparence et un maintien calqué sur un ou deux célibataires surgis de nos souvenirs de jeunesse.
La logique de la relativité générale reste-t-elle toujours incompatible avec la physique quantique?
Voilà comment il en sera. À cela près qu'on en est là, en réalité, aujourd'hui.
À qui dois-je m'adresser pour avoir une information fiable?
Et qu'on y sera plus tard avec un corps réel et une tête réelle. Par conséquent aussi avec un front pour cogner dessus avec la main.
De toute façon, qui lit la poésie maintenant?
Le malheur du célibataire, qu'il soit apparent ou réel, est si facile à deviner pour son entourage que...
Il y a quelqu'un ici qui...
S'il a choisi de devenir célibataire par amour du secret,
y a-t-il un nécrophile dans la salle?
Il maudira sa décision. Quoi qu'il arrive.
Pourquoi quand je parle de Proust, dans un SMS, le vérificateur d'orthographe le remplace par Prout alors que Johnny Hallyday passe très bien?
Il est vrai qu'il se promène partout avec une renagote bien fermée, les mains dans de hautes poches, les coudes pointus, le chapeau enfoncé sur la figure, le sourire faux qui lui est devenu naturel et là pour protéger sa bouche comme le lorgnon protège ses yeux.
Et si le monde devait exploser dans 20 minutes, tu ferais quoi du temps qui resterait?
Il a un pantalon plus étroit qu'il ne sied à ses jambes maigres.
Et puis qui a fini le paquet de cookies?
Mais chacun sait où il en est. Chacun peut lui énumérer tout ce qu'il souffre.
Peux-tu me donner une seule bonne raison pour ne pas me jeter devant le prochain train?
Il reçoit au visage le souffle froid qui sort de ce cœur dans lequel il regarde avec la seconde moitié de son double visage, plus triste encore que l'autre.
Et quel est le point commun entre les hommes et les cochons d'Inde?
Il déménage positivement, sans relâche, mais toujours dans les formes attendues. Plus il s'écarte des vivants pour lesquels, et c'est bien là la pire des dérisions, il lui faut travailler comme un esclave conscient qui n'a même pas le droit de s'avouer pour tel.
Tu es toujours aussi optimiste par rapport à ton avenir.
Plus un petit espace est jugé suffisant pour lui.
Demain, tu fais quoi, finalement?
Tandis que les autres, eux, eussent-ils été alités toute leur vie, obligent la mort à les abattre.
Frites ou pâtes avec le steak?
Quand ils seraient tombés depuis longtemps d'eux-mêmes, abattus par leur propre faiblesse, ils se raccrochent encore à leur famille, parents et époux.
Jamais Jésus avec
forts,
un gros pif.
Aimant et bien portant. Lui, le célibataire, se résigne apparemment de son propre gré à occuper au beau milieu de la vie un espace de plus en plus restreint. Et quand il meurt, le cercueil est tout juste à sa mesure.
Et la question suivante? Tu penses vraiment que tu ne tuerais pas, toi, quel que soit le contexte? Tu sais que quand tu mens, tu agites tes oreilles. Puis-je parler au responsable du parc informatique, s'il vous plaît? Et pour vous, la lessive parfaite serait comment?
Il ne doit pas être bien difficile de s'arracher à un état de marasme, même s'il faut y appliquer toute son énergie.
Tu peux me passer le sel, s'il te plaît?
Je me lève vivement de mon fauteuil et je fais le tour de ma table.
Cette année, les vacances de février, c'est quand?
Mon cou. Je mets de la flamme dans mon regard, je tends mes muscles et mon visage.
Bon, du coup, tu m'épouses?
Je vais systématiquement à l'encontre de mon sentiment.
Mais qu'est-ce qui t'a pris hier soir?
Je salue A avec fougue quand il s'apprête à me rendre visite.
Et puis alors? Tu sais toujours pas pourquoi t'es là?
Je tolère aimablement la présence de B dans ma chambre.
Thank you. Vous allez mourir. Je dis la vérité. La vérité.
Toujours sur Radio Canu.
Mais comment faut-il
que je vous le dise?
Je me rappelle d'un jeu bête auquel je jouais souvent avec mon frère. Il y avait, sur le chemin de l'école, un terrain vague, répugnant, souvent inondé et vraiment formidable. En face habitait un vieux type tout seul. On le voyait qui regardait derrière ses rideaux à longueur de journée. On nous avait dit que c'était un ancien combattant. Pour lui faire peur, on faisait semblant de s'étriper à coups de baïonnette en caoutchouc. Pour lui faire peur, ou bien pour lui faire voir que nous aussi, on savait faire. On avait vu dans des bouquins des tranchées et des barricades, et on passait des samedis à rouler dans la boue en criant. Le vieux nous regardait sans rien dire, et plus il se taisait, plus on formait des trous et des bosses avec nos petites pelles, et plus on se roulait dans la boue en criant. On creusait, on lançait de la terre par poignées, et on revenait repeints comme des Indiens. Ma mère gueulait, mais nous on aimait tellement ça qu'à chaque averse on recommençait. Et puis un jour, à la place de notre chouette champ de bataille, on n'a plus trouvé qu'un gros trou plein de cailloux. On est resté les bras ballants comme des flancs. Le vieux, de la maison en face, il est sorti et il souriait de toutes ses dents manquantes. C'est la terre, il nous a dit. Elle en a eu marre de vos conneries. Elle est partie. Partie ? Tel est pris qu'il croyait prendre. On n'en revenait pas. Et on est resté toute la soirée, les yeux tellement écarquillés qu'on en avait mal aux doigts de pied. Partie ? Marre des bottes qui s'enfoncent dans son dos, assez des cris, ras la casquette de partir en miettes, à la volée, de fuser vers le ciel, et puis de bêtement s'écraser. Après ça, bien sûr, en rentrant de l'école, j'ai vu les pelleteuses et l'armée goguenarde de deux gars casqués plastiques et gilets fluo mal boutonnés. Mais quand même, cette histoire est restée dans un coin de mon crâne, bien accroché. Chaque fois, je passais devant le nouvel immeuble, béton gris déjà abîmé, mes proches commodités, je me disais, ben finalement, elle a sûrement bien fait de s'en aller. Je me rappelle tout ça, les deux mains agrippées aux brides de mon sac à dos, en regardant la montagne d'en bas. Elle me toise du haut de ses pleins de mètres et quelques. Elle a tout vu, tout entendu. C'était il y a près de 100 ans. un siècle et puis quelques brouettes. Elle a senti les milliers de pas alourdis de charges futiles, du fer, de l'acier, des objets pointus, allez savoir pourquoi. Casques, barbelés, canons et tabac achiqués. Elle a senti les roues, les coups martelés écrasant des épieux dans sa chair, les rails, les câbles. Et puis elle a senti les explosions et le départ des petits oiseaux précipités. Les explosions, celles qui jetaient dans les airs des pierres coupantes qui venaient se ficher, des éclats d'arbres tranchants, des hommes et des animaux, et des morceaux de tout ça mélangés. Et les hommes, qui répandaient leur merde et leur pisse et leur sang, et qui rampaient sur elle, en laissant des traînées boueuses, inesthétiques. Ils enfonçaient des pelles, des pioches. Ils couraient partout, et puis ne faisaient plus rien. Ils attendaient le feu d'artifice. Elle a tout vu, et elle aurait parfois bien voulu leur ressembler. Juste pour avoir des mains, et cacher ses yeux, et boucher ses oreilles, et son nez. Voilà.
Vacarme. Et je veux écrire avec un tremblement perpétuel sur le front. Je suis assis dans ma chambre, c'est-à-dire au quartier général du bruit de tout l'appartement. J'entends claquer toutes les portes, grâce à quoi seuls les pas des gens qui courent entre les deux portes me sont épargnés. J'entends même le bruit du fourneau quand on ferme la porte dans la cuisine. Mon père enfonce les portes de ma chambre et passe, vêtu d'une robe de chambre qui traîne sur ses talons. On gratte les cendres du poêle dans la chambre d'à côté. Vali demande à tout hasard, criant à travers l'antichambre, comme dans une rue de Paris, si le chapeau de mon père a bien été brossé. Un chute qui veut se faire mon allié soulève les cris d'une voix en train de répondre. La porte de l'appartement est déclenchée et fait un bruit qui semble sortir d'une gorge enrhumée. Puis elle s'ouvre un peu plus en produisant une note brève comme celle d'une voix de femme et se referme sur une secousse sourde et virile qui est du plus brutal effet sur l'oreille. Mon père est parti, maintenant commence un bruit plus fin, plus dispersé, plus désespérant, encore et dirigé par la voix des deux canaris. Je me suis déjà demandé, mais cela me revient en entendant les canaris. Si je ne devrais pas entrebâiller la porte, ramper comme un serpent dans la chambre d'à côté, et une fois là, supplier mes sœurs et leurs bonnes de se tenir tranquilles.
Devant moi, en contrebas de la colline, des lambeaux de tissu, de bois et de béton papillonnent parmi les éboulis. Et des taches sombres, indistinctes, accrochent et crèvent mon regard. Quelques arbres restés debout, décapités et tordus, se dressent comme d'affreux échassiers unijambistes, grands oiseaux éclopés, déplumés, tournant leur agonie vers le ciel. Au loin, à travers les nuages, j'aperçois encore les sommets. Ils dessinent dans le ciel leurs courbes édulcorées. Je me dis que de près, ils doivent présenter le même aspect hirsute que le mont sous mes pieds. Mais d'ici, la crête semble douce, sensuelle. En fermant un œil, je place ma main sur ces lignes au loin et les caresse tendrement. Puis plus fort. D'un coup, je voudrais les serrer dans mon poing, qu'elles s'abaissent, se prosternent, les aplatir les montagnes, les écraser. Les montagnes sont trop grandes pour être tout à fait laides, même défigurées. Et moi, je suis tout à fait laid, et je suis minuscule. J'avance sur un flanc de colline ravagée. De jeunes arbres me saluent en bruissant gentiment, mais je n'ai pas le cœur à discuter, alors je leur fais des grimaces affreuses, et ils se tournent pour regarder ailleurs, un peu gênés. Je marche encore clopin-clopant. Et va comme je te balance des jambes sur le chemin. Des pieds qui butent, des chutes de pierre, du clapotement dans la piste des ruisseaux. Je me traîne à plus penser. Je remorque mes mollets au devant des gadouilles. Je traverse en crissant des carrières de grès, défigurées, striées d'impacts de balles, nourries de sueur et des échos lointains des pioches, des coups portés, des murmures échangés. Me voilà à la cime et au cimetière. C'est une prairie tranquille caressée par le vent. Une prairie plantée de croix bien alignées, comme les pins tout à l'heure, de part et d'autre du chemin. Ces croix vont-elles à leur tour balancer des racines, creuser, pousser, enfouir leurs souvenirs, tant et si bien qu'elles fleuriront chaque printemps? De quoi nourrir tous ces gars allongés à qui mieux mieux, avec leur croix sur la tête et leur chouette couverture en pelouse? Allez hop, à la soupe, deux bouts de bois et un coin de verdure, en rang. Garde à vous et en avant. Et advienne que pourra. Assis sur un monticule en pagaille, je les attends. Je suis arrivée, ils arriveront aussi. On a tout fait pour qu'ils viennent. Les plaques, les statues, les croix, les plans, les reconstitutions, les conservations, les inventaires et les fichiers du patrimoine. On a gardé le lieu détruit tel quel, comme neuf, excavé, creusé de sillons détrempés. Les tranchées. Ces cicatrices dans la terre, devenues monuments, c'est comme une photo en négatif, profond, profond dans le paysage. Elles sont plus belles que les statues dressées et autres machins splendides sur leur socle en marbre. Il y a ces amas de rochers empilés, ces barbelés tendus entre des arbres depuis longtemps disparus. Des décennies que ça cicatrise là-dedans, à coups d'humus et de calcaire, à coups de petit à petit. Je ne me suis pas trompée. Les voilà. Ils sont là tous venus, d'où qu'ils viennent, de quelques creux fangeux. Ils se dressent encore et vivent pour la terre. Je les entends dans mon ventre, peut-être qu'ils m'appellent. Un par un, ils entrent dans un carré bétonné, par une ouverture qui baille entre le ciment et la roche, à laquelle le j'entre à mon tour. Pour rejoindre l'intérieur, il faut se baisser un peu. Ma tête racle et la fraîcheur tombe en douche sur mes épaules, accompagnée d'une odeur de salpêtre enivrante. Dedans, c'est comme la fête, mais en plus sombre. Fait-on quoi? Des hommes venus de nulle part passent au goutte à goutte le seuil de l'abri. Ils sortent tout droit d'un orage. Ils ont d'abord l'air lointain, flottant dans leurs bottes et ruisselant d'une boue ocre. En silence, ils nous rejoignent et leur visage s'éclaire peu à peu. Les yeux s'illuminent, s'étincellent et s'étoilent. Ils reconnaissent. Ils sont chez eux. Le bunker est leur patrie. Toute une vie passe enfin. Je pense à mon frère, qui vit là-bas dans la vie goudronnée. Je pense à ces hommes qui dansent avec moi et qui sont à la terre pour toute l'éternité. Je pense à elle. Je me demande si elle pourra un jour oublier. Bien sûr que non. Nous continuons. Au dehors, elle grogne sauvage, et tandis que nous tournons, pour toujours puissant et splendide, un grand bruit explose et traverse le béton en hurlant. Un chahut du diable. On stoppe net. Plus un geste. La fête était courte et elle est finie. Il ne faut jamais trop fêter. Surtout quand on ne sait pas trop comment faire. Nous traînons nos carcasses en uniforme déchiré vers l'extérieur. À peine sortis, nos yeux s'écarquillent de soleil. C'est la marée du siècle. Nous la voyons qui palpite dans nos nerfs, sous nos cils, sous nos pieds qui tremblent. Elle plonge vers nous à une allure folle. Une coulée de boue, de plaques granitiques immenses, de tourbes et de limons, nouées ensemble dans une chute permanente. Toute cette mémoire. Et tout dévale à toute vitesse, et tout est comme il se doit. Et nous rions à qui mieux mieux, roulé-boulé, course-poursuite avec le temps. Des années, des paroles, des pas, des regards.
De chair et de sang, à l'air innocent, produit d'une mère exemplaire et d'un père absent. Les premiers vers dans le rap, un jeu adolescent, parce que je n'ai rien à faire d'hyper intéressant. Je rêvais, je dessinais, je passe à la piscine. L'été, le reste du temps, sur place, je prends racine. Du fond de la classe, la terre et l'espace me fascinent. Je ne ferai jamais médecine, c'est ce que je ressens. Locataire d'une cité où les tours sont austères. Mon histoire c'est d'être noir donc minoritaire. Hébété par les débilités éclatées, les déblatères et cette grande timidité qui m'a rendu solitaire. Arrêtez la routine, remettez les bobines et évitez de laisser le bitume irriter les rétines. Cessez de bousculer l'exclu à la gueule Masgus. Je ne sais pas faire sans. Va pas mater ma personnalité, il va tenter le tout pour le tout, mais je vais lutter même si longtemps j'ai été hanté et tourmenté, j'ai fait sauter les clignotants et les barrières de sécurité. Ma réalité, mentalité, c'est de gratter mon paradis à temps sans le regretter. Pour faire le tour de la terre, je n'ai pas l'éternité et malgré tout, je reste l'enfant au rêve illimité. Et je suis dissipé et mal dans ma peau. Je fais les 100 pas mais ne sais pas où trouver mon drapeau. Comme très tôt, trempé par la bave du crapaud, je me sens dupé et trompé par le reste du troupeau. J'ai fripé la copie, oui frappé l'épopée, des impies accro à l'utopie qu'on a estropié. Et j'ai pillé avec dépit ce pays développé où sans répit on doit palper pour payer ses impôts. Et la peur du faux départ demeure mon repère, comme sous les remparts et sous les langues de vipères. Le manque de victoire forge mon caractère, mon territoire ne va nulle part, normal je me perds. Marre du crépi, je voudrais m'échapper, grincer sur... Pipé de participer à ce grand souper, je veux juste m'occuper de taper mon propre tempo. Pas mater ma personnalité, il va tenter le tout pour le tout, mais je vais lutter même si longtemps j'ai été hanté et tourmenté, j'ai fait sauter les clignotants et les barrières de sécurité. Ma réalité, mentalité, c'est de gratter mon paradis à temps sans le regretter. Pour faire le tour de la terre, je n'ai pas l'éternité et malgré tout, je reste l'enfant au rêve illimité. Encore aujourd'hui, bien que j'ai grandi, j'ai su garder un esprit de gosse attardé. Je ne pense qu'à lézarder du lundi au samedi et les vieilles piques ça doit emmerder peuvent me regarder. Je me tape des ondits, des comptes rendus idiots que ces maudits aiment faire dans mon dos pour me saborder. Et j'ai horreur du temps perdu à porter un fardeau avant d'attendre ce fameux repos qu'on va m'accorder. Et je n'aime que ma plume, idem pour mes rimes, quand sur mon barème c'est le mot haine qui s'imprime. C'est mon sérum qui supprime la rue ses problèmes quand mon programme ne veut vendre que drame et déprime. Vivre l'âme guidée, le crâne téléguidé par la thune avant de quitter l'antenne tant pas mérité. Ce n'est pas dans ma nature, laissez-moi devenir et simplement faire à mon idée. Et le temps va pas mater ma personnalité, il va tenter le tout pour le tout, mais je vais lutter même si longtemps j'ai été hanté et tourmenté, j'ai fait sauter les clignotants et les barrières de sécurité. Ma réalité, mentalité, c'est de gratter mon paradis à temps sans le regretter. Pour faire le tour de la terre, je n'ai pas l'éternité et malgré tout, je reste enfant au rêve illimité.
On avait allumé un grand feu. Campis, Kyros et les guerriers du clan me regardaient comme s'ils attendaient de moi quelque chose. J'ignorais la raison de cette attente et de leur silence, car j'étais sûre d'avoir accompli tous les rites. Tout à coup, j'ai su. Une danse très lente s'est emparée de moi. Elle était comme un chant. Un voile rouge et obscur s'est étendu sur mes yeux, et je suis devenue sourde, et j'ai été pénétrée par l'odeur du lion et par le goût de son sang sur mes lèvres. Je descendais en dansant la pente d'un temps très obscur,
Je traversais des millénaires et je parvenais jusqu'à l'antre des ancêtres au milieu des dieux lions. Le sang du lion mêlé au mien me faisait entrer dans une dimension où il n'y avait plus de passé, plus de futur, ni aucune séparation entre le fauve et moi. Car la barrière de la mort était abolie. Parfois, pour quelques instants, je revenais à la conscience, à la vue, et je découvrais sans surprise que nous dansions tous. Dans la grotte originelle d'où les dieux lions étaient sortis, un jour pour nous mettre au monde et avoir enfin des adversaires dignes d'eux. Je croisais parfois Kyros. Il avait le mufle, les dents et la cruauté des fauves. Et pourtant il était mon père et n'arrêtait pas de sourire. Au centre évoluait Cambyse, qui était l'ancêtre dont nous descendions tous et qui dansait avec une force, une lenteur, une majesté souveraine que j'étais seule, moi la reine vierge et lionne, capable d'égaler. Nous avons dansé ainsi hors du temps jusqu'au moment où il y a eu un autel et sur cet autel un feu superbe dont les flammes s'élevaient très haut. Alors j'ai senti mes forces m'abandonner et je me suis évanouie. Au moment où tombait le soir, tous les corps des lions ont été disposés sur l'autel et j'ai été chargée de mettre le feu à leur bûcher. Pendant que les corps se consumaient, la danse a repris et sous l'effet des boissons magiques, elle a refait de nous des lions. La lune arpentait le ciel au-dessus de nous, tandis que nos danses se conformaient à celles des constellations. Le brasier des lions s'apaisait avec de soudains retours de flammes qui projetaient au loin leur étincelle. Jamais le monde n'avait été aussi beau, aussi cruel. Les danseurs formaient des cercles qui se rapprochaient et s'éloignaient de moi comme des vagues. J'étais la seule lionne parmi ces lions mâles, et leur désir, leur férocité m'assaillaient de toutes parts. Mais j'étais protégée par la force supérieure de mon père et de Cambyse, dont les formes géantes étendaient leurs ombres jusqu'aux confins de la plaine. Des combats surgissaient souvent entre les danseurs. Des rugissements éclataient. Les luttes étaient violentes, rapides et devaient s'arrêter au premier sang. La danse, elle, ne s'arrêtait pas et nous ramenait peu à peu à l'origine du monde, à la réconciliation de l'âme avec son corps sauvage. Lorsque l'aube est apparue, mon père a allumé le bûcher de la lionne et nous nous sommes tous prosternés devant elle. Le lendemain, j'ai senti que j'étais toujours au plus profond de moi-même, la fille de ma mère, la sœur de ma sœur, partageant avec elle les rites, les travaux et les plaisirs des femmes qui rêvèrent de leur foyer et des usages de la Grèce. Nous chantions, toutes, en tissant un tapis, quand mon père est entré. En le voyant si beau, si serein, si profondément façonné par la bonté, le courage et la grâce, je me suis demandé comment nous avions pu danser tous les deux la danse des lions, entourés d'hommes, de fauves qui grondaient et rugissaient de désir autour de moi. Je l'ai supplié de me dire comment lui, qui avait connu le dieu sans limite des sages et des livres sacrés de l'Inde, avait pu devenir ce lion que j'avais vu et avec qui j'avais dansé. Comment il avait vu pu supporter cette lionne qui avait capté toute la nuit le désir des hommes du clan, cette femelle sauvage que j'avais été et que j'étais toujours sans doute, et qui avait tué un lion et blessé un homme en le mordant à la gorge. Ma mère et ma sœur se sont levées et elles s'apprêtaient à sortir, comme s'il s'agissait entre nous de secrets et de passions que les femmes comme elles ne peuvent pas partager. Mon père leur a demandé de rester. Les Égyptiens, a-t-il répondu, et les Indiens, ont formé dans leur esprit et dans leur cœur, ont décrit dans leurs monuments de très hautes conceptions, de profondes expériences de Dieu, des dieux, des humains, et dans leur rapport avec l'univers. Notre voix n'est pas la leur. Ce qu'ils cherchent à leur manière, nous le vivons dans notre corps, parmi nos ancêtres lions. Nous le retrouvons dans notre lutte avec eux, le respect que nous leur portons, et chaque année après le combat,
dans la nuit de la réconciliation qui nous unit à eux et au monde, les Égyptiens et les Indiens peuvent parfois parler avec les dieux, répéter ces paroles et les transmettre à leurs descendants. Nous ne connaissons de Dieu que ce que savent les lions, ce qui suffit pour ce temps et pour ce pays qui sont les nôtres. Nous ne pouvons pas parler de Dieu, mais nous pouvons le danser les jours du combat rituel et parfois le chanter comme nous avons pu le faire avec toi.
Et c'est déjà la fin de l'émission. Nanana, c'est le retour.
J'espère que vous passez une bonne rentrée. En tout cas, c'est super. Quelques bafouillements.
Ne bois pas que tu peux réconcilier. On est tous réconciliés, voilà. On est avec vous.
Moi, j'ai lu Kafka, personnellement.
Voilà. Allez, on y va pour des annonces.
J'étais super.
Dans le désordre.
Dans le désordre, un peu. Vas-y, qu'est-ce que tu as lu, toi, d'abord?
Je viens de lire En dernier. Henri Beauchaud, Diotime et les lions.
Diotime et les lions, d'accord.
Jeune guerrière qui essaye de savoir si elle a sa place parmi les hommes. Peut-elle faire la même chose qu'eux et restera-t-elle femme pour autant?
Femme lionne ou femme? Un genre de métaphore ou... Ok, d'accord.
T'as pas le traducteur? Mais Greg est entouré de femmes.
Ouais, c'est vrai. J'essaie de tenir.
De rugir comme tu peux.
Ok, Delphine.
Moi, j'ai lu Yann Monk, un recueil de... Alors, il dit sur le livre que c'est un geste anglo-oulipien, bouillonnant. Bon, c'est pas trop ce que ça veut dire, mais du coup, c'est très...
Aucun des termes n'est définissable. En les mettant ensemble, on n'en sait pas
vraiment
plus.
À voix haute, ça n'a pas d'intérêt de le lire comme ça dans sa tête. Oui. Il faut s'amuser avec, donc moi, je me
On a joué avec, d'ailleurs.
Ouais, moi, j'ai bien rigolé avec toutes ces questions-là, toutes ces questions.
Ouais. J'ai lu Les malheurs des célibataires en même temps. Kafka s'est retourné dans sa tombe.
Et puis, le dernier truc que j'ai fait sur le beat, comme on dit... Et un texte de Kazé que j'aime beaucoup, qui s'appelle Rêve illimité. Voilà. Et toi, Greg?
Moi, j'ai joué avec toi en lisant Le malheur du célibataire avec Yann Monk. Et un texte toujours de Kafka qui s'appelle Vacarme, s'intitule Vacarme. Et voilà, quelques morceaux de musique aussi proposés. La femme, It's Time to Wake Up. Et Jamilé de Ihsan Al-Munzer. Et nous avons une invitée ce soir, Alice, qui va nous parler un peu plus de ce qu'elle nous a lu ce soir.
Moi, ce soir, j'ai lu un texte qui s'appelle « À la vôtre ». J'ai lu des extraits complètement aléatoires et dans un ordre complètement bizarre.
Super.
C'est un texte qui n'est pas encore édité, mais qui le sera d'ici un mois ou deux. Voilà.
Première audition, quoi. Voilà, rien que
voilà. Pour
vous. Tout ça pour Radio Canu.
Oui. Et il manque deux choses que je n'ai pas nommées. Quelques poèmes de James Joyce. Et puis aussi le fantastique Hercolubus ou Planète Rouge de Monsieur Rabolou. Donc, soit c'est la fin du monde, soit c'est à nous de nous réveiller un petit peu.
Le monde farfelu.
C'est la rentrée.
En tout cas, t'as un superbe accent français en anglais. J'étais...
Oh, wow. Thanks, really, so nice, and nice to meet you.
It was so very amazing to the text, yes.
C'était la reprise.
Merci beaucoup, and we love you.
Dans deux semaines.
Dans deux semaines,
avec
exactement.
Avec Anita et toute la clique.
Si Dieu veut.
Et on vous laisse avec...
Plaisir de France et Barbara Carlotti. Et des bisous.
Ciao.
Ciao.
Il est arrivé que je prenne le train par jalousie. Il est arrivé que je me noie dans l'alcool et l'extasie. Il est arrivé tant de choses et j'ai eu plusieurs vies. Alors quelle différence ? je brise toutes les absences. Je suis l'extase indécise, l'aube claire de l'expérience. Je suis le sceptre de la joie, la souffrance et la fantaisie, et la jouissance est mon crime.